RFI, 7h30 à Dakar, 8h30 à Paris, 9h30 à Khartoum.
RFI Matin.
Vincent Dublonge, au Sénégal, à quelques jours des législatives, une organisation de la société civile distribue les bons et les mauvais points sur l'atmosphère et le respect des règles.
Oui, dans cette campagne pour les législatives, le positif, c'est que la distribution des cartes d'électeurs se déroule bien. Mais il y a trop de violence et d'irrégularité, avance le Forum civil. On en parle dans un instant. Laurent Gbagbo et l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire se sont vus et parlé. Pourquoi ? Analyse avec un universitaire dans 2 minutes. Le chercheur français arrêté en Tunisie il y a une dizaine de jours est toujours détenu. Sa famille tente de mobiliser. Défaite nette et sans appel. Dimanche pour la coalition gouvernementale lors des législatives à Maurice. Le Premier ministre a reconnu hier sa défaite. Le journal des sports dans 10 minutes. Première convocation pour un jeune joueur du TP Mazembe avec l'équipe A de la sélection RD congolaise. Oscar Kabuit, 19 ans et ambitieux. Les élections législatives anticipées approchent à grands pas au Sénégal. L'occasion pour le duo de l'exécutif Bassirou Diomaye Faye, le président, Ousmane Sonko, le Premier ministre, d'affermir leur pouvoir en se donnant une majorité parlementaire. Pour l'instant, ils ne l'ont pas. Les électrices et les électeurs sénégalais votent dimanche qui arrive. Et la tension demeure forte, on en parle sur RFI. Une coalition de la société civile vient d'ailleurs de publier un rapport qui est notamment assez alarmant sur ce point. Léa Lisa Vesteroff nous le résume.
Le ministre de la Santé qui amène du matériel dans un dispensaire à Pau d'Or, dans le nord du pays, alors qu'il est candidat et tête de liste dans ce même département. Voilà l'un des cas d'utilisation des moyens de l'État recensés par le Forum civil, qui dénonce, je cite, « une rupture d'égalité entre les compétiteurs ». 26% d'incidents de ce type ont été signalés pendant les 10 premiers jours de campagne. Autre sujet de préoccupation, les cas d'achat de conscience. 20% des incidents concernent cette pratique, selon l'organisation de la société civile. Enfin, il y a la violence électorale qui est montée d'un cran pendant la première semaine de campagne, avec entre autres le siège d'un parti d'opposition incendié à Dakar, des affiches saccagées et des bagarres de militants dans le centre du pays. Le Forum civil appelle à renforcer la sécurisation des cortèges. Satisfait-il par contre sur les préparatifs électoraux. Les 46 observateurs à long terme du Forum civil ont notamment relevé le bon fonctionnement des commissions de distribution des cartes d'électeurs, et ce, même si plusieurs centaines attendent encore d'être récupérées. Léa Lisa Vesteroff, Dakar, RFI.
Il est 7h33 à Dakar, comme à Abidjan, en Côte d'Ivoire. L'ancien président Laurent Gbagbo a donc rencontré, c'était dimanche, l'ambassadeur de France dans le pays, Jean-Christophe Béliard. Un échange qui a duré près de 2 heures, qui a permis d'évoquer plusieurs sujets. Depuis son retour en Côte d'Ivoire il y a 3 ans et demi, c'est la première fois que Laurent Gbagbo rencontre le représentant de la France dans son pays. Quelle portée cette rencontre a-t-elle pour l'ancien président ivoirien, aujourd'hui opposant, et candidat déclaré à la présidentielle de l'année prochaine en Côte d'Ivoire? Écoutez l'analyse ce matin d'Henri Bas. Il est professeur de philosophie politique à l'université Alassane Ouattara de Boaké.
Le bénéfice, c'est que cela le repositionne, qu'il soit reçu par un ambassadeur d'un grand pays comme la France, fait de lui un acteur clé de la politique ivoirienne, même s'il était déjà, mais c'est une autre manière de le repositionner pour dire qu'il devient fréquentable. Il n'est plus le Laurent Gbagbo qu'on a présenté tantôt dans les médias il y a de cela quelques années. Il devient fréquentable, il devient un acteur avec qui la France veut compter et qu'elle veut composer. C'est un geste de décrispation, c'est un geste qui montre que Laurent Gbagbo tape presque à toutes les portes, là où une solution peut venir. Et c'est un geste qui montre que le panafricanisme tel qu'il le voit n'est pas un panafricanisme enfermé sur soi, mais un panafricanisme qui, en étant pour l'Afrique, peut chercher des partenaires en dehors de l'Afrique, en dehors de la Côte d'Ivoire.
Henri Bas, le professeur de philosophie politique à l'université Alassane Ouattara de Boaké, interrogé par notre correspondante en Côte d'Ivoire, Binta Diagne. En Tunisie, ça fait maintenant plus de 3 semaines que Victor Dupont, chercheur français, a été arrêté. Des efforts diplomatiques ont été déployés rapidement pour tenter d'obtenir sa libération. Pour l'instant, ils n'ont pas été couronnés de succès. Les tractations avec les autorités tunisiennes patinent donc. Les amis, les confrères aussi de Victor Dupont, confrères de l'université d'Aix-Marseille et d'autres institutions, s'impatientent. Ils viennent de lancer une pétition pour demander sa libération. Ils estiment que son incarcération est une atteinte aux libertés académiques. Amélie Tulèche.
Ses amis le décrivent comme un passionné du monde arabe, études entamées au Caire et poursuivies à Tunis. Victor Dupont, pur produit de la recherche française, aujourd'hui accusé de complot contre la sûreté de l'État en Tunisie. Doctorant auprès de l'Institut de recherche et d'études sur les mondes arabes et musulmans, ses travaux ont porté notamment sur la trajectoire socio-professionnelle des jeunes qui se sont mobilisés pendant la révolution de 2011 contre Ben Ali. Un intérêt pour la Tunisie qui l'a aussi poussé à consacrer son mémoire de master à la vie parlementaire tunisienne après la prise des pleins pouvoirs par Kais Saied en 2021. Récemment, Victor Dupont avait rédigé un article dans lequel il estimait que l'accaparement des pouvoirs de la part du président tunisien finirait par se heurter aux réalités sociales du pays. Il avait aussi signé une tribune dénonçant la politique qualifiée de raciste de Tunis envers les migrants subsahariens. Son arrestation inquiète les défenseurs des droits humains en Tunisie alors que des dizaines de détenus dits d'opinion ont été arrêtés ces derniers mois.
La Tunisie et ce patron en garde à vue, Abdelaziz Mahloufi, le PDG du groupe CHO, qui possède notamment la marque d'huile d'olive Terra Delissa, qui est connue en Europe. Abdelaziz Mahloufi est en garde à vue soupçonné de corruption financière et administrative dans la gestion d'un domaine de l'État. Au Mali, ça fait plus de 3 jours que le PDG de la compagnie australienne Resolute est lui aussi en garde à vue. Resolute est propriétaire d'une mine d'or au Mali. Il est en garde à vue, le PDG, avec deux de ses collaborateurs expatriés au Mali, brutalement arrêtés vendredi dans un hôtel de Bamako. Ils sont détenus à la brigade du pôle économique. Au centre de l'affaire, Serge Daniel, un litige financier avec les autorités maliennes.
La compagnie australienne Resolute détient 80% des parts de la filiale propriétaire de la mine d'or de Siama située dans le sud-ouest du Mali. Les 20% restants sont entre les mains de l'État malien. Le président directeur général de la société, Terence Oloam, et son groupe sont accusés de faux présumés et d'atteinte aux biens publics. Une source au cœur de l'enquête du litige financier entre l'État malien et la société nous a confié, je cite, « C'est une affaire de gros sous, la société en matière de fiscalité doit beaucoup de l'argent à l'État malien. C'est pratiques commerciales sont tout sauf orthodoxes. » Fin de citation. D'après nos informations devant les enquêteurs, le patron de la société et ses collaborateurs en garde à vue se défendent. Mais pour le moment, ils ne souhaitent pas véritablement le clash avec Bamako. La mine d'or rapporte gros et les affaires sont les affaires. Selon un document officiel que nous avons pu consulter, la compagnie australienne serait prête à faire un effort pour mettre sur la table une partie de la somme colossale que réclament les autorités maliennes. Ces dernières restent pour le moment inflexibles et ne seraient pas étonnées de l'inculpation des haut responsable de la société en cas de non-accord.
Serge Daniel. Il évoque un droit de légitime défense de la population mozambicaine. Le désormais principal opposant au parti au pouvoir continue de contester les résultats des élections générales du 9 octobre. Venancio Mondlane, en exil, appelle à 3 nouvelles journées de mobilisation à compter de demain. Lors de la dernière marche de protestation jeudi, il y a eu des morts. Il y en a au moins 30 depuis l'annonce des résultats il y a 2 semaines, d'après l'organisation de défense des droits humains Human Rights Watch. Human Rights Watch qui lance un appel pressant au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni qui préside ce mois-ci le Conseil de sécurité de l'ONU et qui, donc Human Rights Watch, demande au Royaume-Uni de travailler immédiatement et concrètement à une protection des civils au Soudan. Le Conseil de sécurité des Nations Unies va évoquer la situation dans le pays en guerre depuis plus d'un an et demi. Aujourd'hui, il a rapidement reconnu sa défaite. Hier, le Premier ministre mauricien sortant Pravin Jugnauth sort largement battu avec sa coalition de ce scrutin qu'il avait lui-même convoqué. C'était il y a quelques semaines. Son pays venait alors de se mettre d'accord avec le Royaume-Uni pour la restitution de l'archipel des Chagos. Mais cela n'a pas suffi, visiblement, à convaincre les quelques 800 000 électrices et électeurs qui étaient appelés aux urnes ce dimanche. Près de 80% sont allés déposer leur bulletin. Et ils ont infligé une déroute, il faut le dire, à la coalition gouvernementale qui ne voit aucun de ses 60 candidats élus. Le bloc de l'opposition, l'Alliance du Changement, rafle donc tous les sièges du Parlement. Ce n'est pas une première sur l'île de l'océan Indien, puisque c'est déjà arrivé en 1982 et en 1995. Le leader de l'opposition, ancien chef de gouvernement, Navin Ramgoolam, s'apprête donc à effectuer son retour aux commandes. Abdoulaye Rally.
Des scènes de joie ont animé toute l'île du matin jusqu'au soir. Des partisans de l'Alliance du Changement ont fêté le retour de Navin Ramgoolam au pouvoir. Parmi eux, Nivedita Nathu, qui a activement participé à la campagne.
Très très contente, parce qu'on a travaillé très très dur pour cette victoire. Je remercie le peuple mauricien énormément, parce qu'ils ont réagi et ils ont pris leur destin dans leurs mains.
Le temps de cette élection, le grand village du Nord, Triolet, est redevenu la capitale politique de Maurice. Mahesh, Un habitant du village attendait avec impatience le retour de Navin Ramgoulam.
Victoire, c'est très magnifique. On attendait depuis l'an 2019. Moi, j'espère qu'il va faire le bien, mieux.
Un cri de ralliement a marqué cette campagne, le BLD. Ce slogan créole appelant au départ du gouvernement est devenu un puissant symbole de la contestation populaire. Abdullah Erali, Port-Louis, RFI.
Et terminons ce journal non loin de Maurice, à Madagascar, où des prothèses de jambes ou de bras sur mesure sont offertes à des personnes amputées ou nées avec des malformations. Pendant un mois, ce dispositif, porté par une association malgache d'un côté, une ONG indienne de l'autre, va bénéficier à plus de 500 personnes de tous âges, venues pour certaines de zones rurales enclavées de la Grande Île. C'est une première à Mada, où l'accès à une prothèse est habituellement très difficile et coûteux. RFI, Tana, Guillaume Fabry.
Il y a 3 ans, Jeanne Razavidjavon a dû être amputée de ses 2 jambes à cause de plaies mal soignées. Cette habitante d'Antananarive, âgée de 75 ans, vient de recevoir 2 prothèses.
Je ne ressens que du bonheur. Vraiment, je ne pensais plus pouvoir remarcher un jour. Après l'amputation, j'ai dû rester à la maison. Maintenant, j'aimerais reprendre mes activités, me promener, faire la cuisine, laver mon linge et pouvoir prendre soin de moi toute seule.
Ces prothèses articulables sont fabriquées sur mesure en une journée par une équipe de professionnels indiens venus pour un mois sur la Grande Île. Dr Liliane Anjanarisu Anjamananoun est la présidente de l'association malgache Maatsongi, à l'origine du dispositif.
Le fait d'avoir des prothèses et des membres, ce n'est pas à la portée de tout le monde à Madagascar. Du fait des problèmes pécuniaires, problèmes d'éloignement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans les zones enclavées. C'est pour cela que nous avons recours à une aide financière auprès des donateurs pour faire venir les gens des provinces.
L'association Maatsongi s'est fixée pour objectif d'offrir des prothèses à au moins 1000 malgaches d'ici 5 ans. Guillaume Fabry, Antananarive, RFI.
Et Antananarive, il est 9h42. Andréane Mellard, c'est à vous.
La suite. Merci Vincent Dublange. Je suis là, merci.
Vous êtes là, tout
à tout à l'heure. Non, à demain.
À
bonne
demain,
journée.
Exactement.